Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. On attaque cette rencontre avec Gérard Mordilla. L'assemblée est encore un peu clairsemée, mais je suis certaine que d'ici quelques minutes, les chaises vont se remplir. Alors, on accueille Gérard Mordilla pour le livre « Les Exaltés » paru chez Calman Levy. Je vais dire quand même quelques éléments sur votre vie, Gérard Mordilla. Vous êtes, en plus d'être romancier, poète et cinéaste. Vous illustrez, alors je vais résumer, hein, je vais partir à grandes enjambées comme ça sur votre parcours. Je vais citer quand même votre documentaire sur les patrons en 78 avec la voix de son maître. Vous étiez aussi un temps responsable des pages littéraires du journal Libération. Vous écrivez votre premier roman en 81, c'était Vive la sociale. Après l'adaptation de votre livre au cinéma, vous enchaînez les romans, et là je ne vais pas tous les citer, j'ai essayé de les compter, je ne sais pas si vous avez compté, j'en ai compté à peu près une quarantaine.
Non, vous êtes un peu optimiste, j'aimerais bien, mais non.
C'est vrai ?
Non, allez, je vous le fais à 30.
30 ?
Voilà.
Bon, que 30. Que 30 livres. Parmi les derniers, alors je vais citer par exemple en 2015 « La Brigade du Rire ». Chez oui. Albin Michel. 2016, Hamlet le vrai, chez Grasset. 2017, j'en saute un peu, La Tour abolie, toujours chez Albin Michel. Ces femmes-là aussi, 2019. Les Roses Noires, 2021 et 2022, Ecce Homo, chez Albin Michel. Et puis, avec en parallèle des romans, eh bien, on vous retrouve aussi pour le petit et le grand écran avec de nombreux documentaires. Là, j'en ai compté une trentaine, mais je suis peut-être encore optimiste.
Oui, non,
là, c'est bon. C'est bon. On peut citer par exemple les séries télévisées que vous avez réalisées avec Jérôme Prieur pour Arte, Corpus Christi, L'origine du christianisme, L'Apocalypse. Citons aussi trois essais sur, dans le même domaine, Jésus contre Jésus, Jésus après Jésus
et Jésus,
et Jésus sans Jésus.
Voilà.
Bon, Gérard Mordilla, première question. Dormez-vous de temps en temps? Prenez-vous des vacances? Utilisez-vous des esclaves?
Vacances, quel horrible mot.
C'est vrai, vous ne connaissez pas ce mot? Il n'est pas dans votre vocabulaire?
Non, j'ai pris des vacances, peut-être vraiment en ayant conscience de prendre des vacances, après la naissance de ma première fille. Voilà, ça oui, là. Ah. On était partis en vacances vraiment, mais sans ça, j'ai la chance de très peu dormir. Ce n'est pas une vertu chez moi, mais j'ai jamais beaucoup dormi, même adolescent, j'ai jamais dormi. J'ai jamais dormi jusqu'à 9h, ça n'existe pas pour moi, quoi.
Ah oui. Pourtant, les adolescents qui dorment au-delà de 9h, on en connaît, hein.
Oui, mais vous, pas moi, non. Mais peut-être parce que chez mes parents, je dormais dans le couloir et mon père partait travailler, il travaillait à la SNCF, et il partait travailler, je pense, vers 5h du matin. Donc j'étais réveillé tous les jours à 5h, mmh. Et j'ai gardé ça et je suis... Tout de suite en forme dès le matin, voilà.
Chance. Alors dans vos œuvres, on retrouve deux fils rouges importants, c'est l'histoire sociale et l'histoire religieuse. Et parfois, il se trouve que les deux fils se mêlent dans une même pelote. C'est le cas avec Les Exaltés, paru donc chez Calman Levy, paru là en ce début d'année. Je dis quelques mots sur ce roman, si vous ne l'avez pas encore lu ou parcouru. On est dans l'Allemagne au XVIe siècle. Les exaltés désignent ceux qui se dressent contre l'Église. Donc ils sont...
Qui se dressent contre Luther.
Luther.
Luther appelle les exaltés ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais en même temps, ce qui me plaisait dans ce titre, c'est que ce titre peut désigner aussi Munzer et Luther, qui sont aussi dans un autre sens des exaltés.
Et voilà. Et donc on va aussi découvrir le parcours de ces deux hommes qui partagent la même foi, qui critiquent tous les deux les dérives de l'Église, mais qui vont s'affronter parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même tempérament ni tout à fait la même vision.
Faut peut-être commencer par le début. Je veux dire, au début, nous sommes à Rome. Bramante, qui est l'architecte de Saint-Pierre de Rome, vient de mourir, mais il n'a rien construit. Et Léon X, le pape, le remplace par Raphaël, le peintre Raphaël. Mais Raphaël est devant un terrain vague. Il y a des matériaux, mais rien n'a été construit. Et donc Raphaël doit tout refaire les plans et tout reconstruire. Évidemment, cela coûte une fortune. Alors, pour trouver l'argent, le pape va vendre à un prince allemand l'archevêché de Mayence, puisque c'était des charges que l'on achetait. le pape lui-même, Léon X, je fais une sorte de bas de page, quand il est élu pape, il n'est pas prêtre. Il est cardinal parce qu'on lui a offert la pourpre cardinaliste quand il avait 14 ans pour son anniversaire. Mais il n'est pas prêtre. On le fait prêtre en 2 jours, évêque en 4 jours et pape dans la foulée. Il n'est pas prêtre, c'est un Médicis. C'est son tour. Il y a les de la Rovère, les Médicis, bon, c'est une grande famille. Bref, il n'a pas d'argent. Donc il autorise ce prince à acheter la charge d'archevêque de Mayence, qui est très chère, et le prince est venu avec le banquier Fugger, qui à ce moment-là est l'homme le plus riche du monde, qui avance l'argent, bien entendu. Fugger, c'est celui qui, par exemple, a financé l'élection de Charles Quint. Mais ça a coup... Il s'en est bien porté, mais c'était extrêmement cher. Et pour que le banquier se rembourse, le pape autorise à vendre des indulgences en Allemagne. Alors les indulgences, c'est une chose assez extraordinaire. Ce sont au fond des dispenses que vous accorde l'Église d'un certain nombre d'années de purgatoire pour vous, mais aussi pour vos ascendants, pour vos descendants. Et c'est le texte des indulgences lui-même est assez incroyable à découvrir parce que c'est extrêmement cru, voire très ouvertement pornographique, très détaillé et très tarifé. Tous les péchés que vous pouvez faire, qu'ont pu faire vos parents ou que font vos enfants, tout ça se paye avec une graduation assez extraordinaire. Donc on envoie un dominicain vendre ses indulgences pour rembourser le banquier Fugger. Et bien entendu, la papauté prend 50% de ce que ça rapporte. Et par prudence, le pape va envoyer un apprenti de Raphaël qui, pour son malheur, parle allemand. Pourquoi il l'envoie ? Parce qu'il veut être sûr que Tetzel, ce dominicain qui va vendre des indulgences, ne garde pas la moitié de l'argent pour lui. Ce qu'il fera, pas la moitié, mais il en gardera une partie. Donc il est chargé de le suivre et de faire des rapports réguliers au pape. Donc c'est le narrateur de cette histoire. Luca Ponti, c'est lui qui raconte l'histoire. Et ça va commencer vraiment à Wittemberg, dans la ville de Frédéric le Grand, qui est le grand prince allemand, et qui a ouvert une université. Dans cette université enseigne Martin Luther, qui à ce moment-là est moine. Donc Luther entend prêcher, comme on dit, ses indulgences, et il est absolument scandalisé, stupéfait et scandalisé que le pape, en son nom propre, puisse accorder le pardon, l'indulgence. Or, un privilège qui ne revient qu'à Dieu sur un certain nombre de péchés. Donc, fou de colère, il va rédiger 95 thèses contre ces indulgences. Alors, quand je dis 95 thèses, faut voir que c'est 2-3 lignes à chaque fois, 4 lignes, 5 lignes sur, il détaille, et qu'il écrit évidemment en latin, et qu'il placarde sur la porte de son église. Parce que Luther souhaite avoir un débat théologique avec ses pairs, avec les autres profs qui sont à l'université. Mais là, il se passe quelque chose qui va absolument tout changer, c'est que ses étudiants vont traduire les thèses du latin en allemand. Et non seulement ils vont les traduire, mais ils vont les imprimer. Et ça sera même le premier livre publié, imprimé, pardon, en Allemagne, avant la Bible traduite par Luther. Et ça va devenir presque aussitôt, là aussi on dirait aujourd'hui, un best-seller.
Ça va faire le buzz, on dirait.
Ah bah oui, ça va faire le buzz, ça va se répandre partout. Ça va bien sûr partout en Allemagne, mais ça va déborder en France à travers l'Alsace, la Lorraine. Ça va aller du côté de la Suisse et des pays de l'Est. Ça va remonter vers le Danemark, etc. Et ça va traverser vers l'Angleterre. D'un seul coup, enfin, on a envie de dire, l'Europe lit Luther. Or, Luther s'en prend de façon très virulente au pape et à l'autorité du pape, et remettant en cause l'autorité de l'Église elle-même à travers l'autorité que s'accorde le pape. Alors, deux choses sont importantes. D'une part, la langue allemande, vous verrez que ça va jouer un rôle fondamental, et l'imprimerie, parce que soudain, c'est une autre façon de communiquer, et cette autre façon, elle est à la fois très efficace, très rapide et facile à multiplier. Donc, la condition des paysans qui sont pour la majorité des serfs est terrifiante à ce moment-là, parce qu'ils sont évidemment exploités par les seigneurs au-delà de l'imaginable, et puis ils sont d'un autre côté rançonnés par l'Église, parce qu'il y a plusieurs formes de dîmes à payer, mais elles sont toutes à payer, et puis tout est payant. Si vous vous mariez, faut payer. Si vous voulez consommer le soir même, c'est plus cher. Si vous mourrez, faut payer. Enfin, tout est payant. Donc, les gens vivent dans une situation de dénuement, de misère extraordinaire. Quand ils entendent, parce qu'ils ne savent pas lire, bien entendu, donc on leur lit les thèses de Luther, et ils entendent qu'on peut remettre en cause l'autorité du pape, l'autorité de l'Église, etc. Immédiatement, ça provoque un soulèvement populaire, et les serfs, les ouvriers, le terme existe déjà à cette époque, les petits artisans, les mineurs, qui travaillent dans les mines de métaux précieux, vont s'insurger et se mettre à piller les monastères, les couvents, tous les biens de l'Église, et aussi s'attaquer aux châteaux. Mais les biens de l'Église, alors j'insiste un instant sur ça, parce que en pillant les couvents et les monastères, ils vont aussi libérer les moines et les nonnes, et surtout les nonnes, dont beaucoup vont s'échapper de la condition à laquelle ils étaient condamnés, parce qu'elles étaient mises dans les couvents par leur famille, la majorité, il y en a qui y allaient d'elles-mêmes, peut-être pour échapper au mariage, mais en tout cas, la majorité était placée par leur famille, et les conditions, la règle dans les couvents était extrêmement dure, extrêmement contraignante et terrifiante d'une certaine manière. Donc, beaucoup vont s'échapper, et notamment dans l'histoire que je raconte, celle de Thomas Münzer, qui est un prêtre qui d'abord prendra fait et cause pour Luther avant d'être tout à fait en désaccord avec lui, il va se marier avec une nonne défroquée qui s'appelle Ottilie de Gersen. Et Luther, qui ne voulait pas se marier et tout, finira par se marier lui aussi.
Mais dites pas tout.
Non, mais j'ai juste pour dire ça, avec lui aussi une nonne défroquée. Donc c'est dire qu'il y a un mouvement très important de fuite des couvents.
Oui. On peut peut-être lire justement le portrait, enfin le récit de vie de Doty.
Oui.
Page 122, un petit extrait qui va nous plonger justement dans les conditions de vie à cette époque.
Doty est une très jeune nonne, elle a 17 ans, qui s'échappe en même temps que la future femme de Münzer, que Ottilie de Gersen, et qui raconte, parce qu'ils ont le même âge, elle devient très proche de Luca Ponti, le narrateur de cette histoire, et d'ailleurs ils finiront par se marier. Mais elle raconte les conditions dans lesquelles elle vivait. Et donc je lis un peu ce passage parce que ça dit beaucoup de l'ambiance de l'époque. C'est Doty qui parle. Hein. À 11 ans, quand ma mère est morte, on m'a forcé à entrer au couvent, en prétendant que cela m'assurerait nourriture, protection et abri. Ni mon père et sa nouvelle femme, ni personne ne voulut m'entendre quand j'avouais que je ne me sentais pas faite pour la vie religieuse. L'odeur de l'encens à l'église me soulevait le cœur, et je ne voyais que convoitise, haine et frustration entre les sœurs. On me forçait à réciter « Jésus est le Verbe de Dieu, Jésus est amour », et j'ai cru devenir folle à force de devoir le répéter sous la menace d'une badine. Quand j'eus 14 ans, j'ai dû prendre le voile et prononcer mes vœux. J'ai haï mon père et ma marâtre, je dépérissais, j'allais mourir de chagrin, de solitude, étranglé par cette haine qui étouffait tout autre sentiment en moi. J'ai écrit à la sœur de ma mère pour lui demander de venir me chercher, de me prendre avec elle. Je n'en pouvais plus du couvent. J'avais tant besoin d'amour, de consolation. Cela s'est su. Pour me punir, chaque jour, pendant une semaine, j'ai dû faire 20 signes de croix sur le sol des lieux d'aisance, avec ma langue. J'ai été fouetté de verges, robe relevée devant les autres. À l'église, je devais rester étendu par terre, les bras en croix, pour que mes compagnes me piétinent. Mais je n'ai jamais cédé. Je voulais partir. Je le disais, je le répétais. Je n'avais en tête que souffrance, injustice, tristesse. Je ne voulais pas de ce Christ sanguinolent qu'on m'ordonnait d'adorer. Je ne voulais pas d'un supplicié comme Dieu. Je ne voulais pas vénérer la torture, l'agonie et la peine. Je passais mes nuits à me répéter « Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ?» J'avais enterré mes espérances. Seule la mort pourrait me délivrer. Je l'appelais, je la criais, je hurlais qu'elle vienne me prendre. Alors j'ai été tondu, enchaîné et enfermé dans un cachot, au pain et à l'eau pendant tout un mois. J'aurais été condamné à l'incarcération perpétuelle si les paysans ne s'étaient pas révoltés.
Voilà un passage qui en dit long sur cette époque. Vous avez dû aller, vous avez dû fouiller dans des textes ou des témoignages ou que sais-je pour rédiger par exemple un passage comme celui-ci. Je suis sûr qu'il n'est pas complètement sorti de votre imagination.
Non, il est tout à fait. Non, le roman est un roman. Il est construit sur des fondations sourcées et attestées, extrêmement solides. Par chance, nous avons énormément de textes, notamment du côté de Luther. Énormément de choses sont publiées et traduites, et notamment deux volumes qui m'ont beaucoup servi, qui sont les Propos de table. Parce que Luther était un très gros mangeur, et à sa table, il y avait ses admirateurs, ses disciples, ses suiveurs qui notaient tout ce qu'il disait. Donc on a là un témoignage du premier rang de qui était Luther. Mais on a aussi, bien sûr, tous les sermons, la majorité des sermons de Thomas Munzer, plus bon, toutes les œuvres de Luther, bien entendu, et notamment les pamphlets contre le pape. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Mais l'ami le plus proche de Luther, c'était le peintre Cranach. Et Luther écrit des pamphlets contre le pape, illustrés par Cranach. Charlie Hebdo à côté, ce sont des enfants de cœur. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit Luther et Cranach en train de chier sur le pape, de lui pisser dessus, de vomir sur ses chaussures et le traiter d'absolument tous les noms. Donc. Et tout cela était évidemment publié, imprimé, distribué, etc., etc. Donc les sources, bon là les sources, c'est les sources historiques sur, j'ai eu accès, on m'a communiqué le règlement interne d'un couvent bénédictin, et c'était ça, bien sûr. C'est très, enfin, je me suis appuyé sur le règlement du couvent interne. Mais pour tous les textes qui apparaissent ici, que ce soit les propos de Luther ou que ce soit ceux de Munzer, je suis toujours parti d'une source historique attestée que, bien entendu, j'ai réécrite parce que c'était et Munzer et Luther des théologiens qui discutaient entre eux et qui discutaient de façon implicite. Si je vous dis, hein, vous serez bien d'accord avec moi qu'on ne peut pas accepter Marc 12-14. Oui, bah vous voyez, donc, simplement, j'ai écrit de telle sorte à ce qu'un lecteur contemporain qui n'est pas un exégète puisse comprendre la nature de la polémique entre eux. Mais pour vous raconter ce qui va séparer ces deux hommes, ce qui va séparer Luther de Munzer, d'abord, il faut imaginer presque un western, c'est-à-dire chacun au bout de la rue, prêt à se tirer l'un sur l'autre. Mais déjà, dès la première rencontre, quand Münzer découvre les textes de Luther, il est enthousiasmé, il est absolument d'accord, il ne pense pas autrement et il pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. L'Église doit cesser d'être cet outil de coercition terrifiant qu'il est à ce moment-là. Donc il faut revenir à des principes évangéliques premiers, qu'on trouve par exemple dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, avec le partage des biens, l'égalité entre tous, etc. Donc, il est très enthousiaste. Et justement, Luca Ponti, qui connaît Luther, mais qui est allé voir Münzer parce qu'il est allé avec les étudiants qui distribuaient les thèses, ramène avec lui Münzer pour le présenter à Luther, qui sait vaguement qui c'est, mais il ne l'a pas. Et donc, la première rencontre a lieu dans une auberge. Et là, il y a déjà une petite fêlure entre les deux.
À table, ça ne se passe pas tout à fait pareil chez l'un et chez l'autre. Hein. Ils sont déjà à l'opposé.
Ah, absolument à l'opposé, parce que Luther mangeait énormément.
Et... Il est un peu dégoûtant quand même, hein, comment vous le décrivez.
Mais on expliquera peut-être pourquoi il mange autant. Et juste par curiosité, si vous regardez sur Internet, vous pouvez voir... le défilé des, je crois, 17 ou 18 portraits que Cranach a fait de lui. Et le premier, on voit un moine ascétique, et à la fin, on voit Henri VIII d'Angleterre. Il devait faire 100 kilos ou 110 kilos. Enfin, il est devenu une bonbonne incroyable. Et là, déjà, il y a une chose qui se joue, parce que Münzer, tout au contraire, a juré de ne jamais manger plus que ce que mangent les plus pauvres. Donc on a d'un côté un goinfre et de l'autre côté un ascète. Et cette fêlure, eh bien, elle va s'agrandir. Bah, parce que Luther tient à sa discussion théologique. Il pense que le sort des paysans, le sort des serfs, il n'en a absolument rien à faire. Pour eux, sont des animaux qu'il faut contraindre par la force. Non, ce qu'il veut, c'est absolument avoir une discussion théologique avec ses pairs. Et aussi avec Rome, parce que Rome enverra assez rapidement des émissaires pour discuter avec lui. Et il ne se laissera pas faire sur ce qui lui paraissent les points absolument essentiels. Et Münzer, tout au contraire, regardant autour de lui ce qui se passe, comprend que cette parole qui a suscité un tel soulèvement populaire doit aboutir à quelque chose de concret pour les plus pauvres, et que ce qui est important... ce n'est pas la théologie, c'est le droit d'exister. Et c'est pour ça qu'il va se battre. Et c'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas, que Luther ne comprend pas du tout quel intérêt il y aurait à se battre pour des paysans. Donc, il y a là, mais aussi peut-être parce que l'histoire de chacun est assez différente, dans la mesure où Münzer a eu une enfance. Traumatisante, on peut dire, puisque son père a été pendu pour avoir ramassé du bois mort dans la forêt d'un duc. On l'a pendu pour ça. Et sa mère a été violentée par les soldats, rouée de coups, violée, etc. Donc, il a quand même cette expérience qui l'a, oui, profondément marqué, et il sera toujours du côté des plus pauvres. Il s'est toujours vu de ce côté-là. Il ne peut pas se voir d'un autre côté. Luther, d'abord, par intérêt intellectuel, se pense dans une classe, disons, supérieure, en tout cas intellectuellement supérieure, au-delà de ses privilèges religieux. Et puis aussi, très vite, il va comprendre que, ayant mis le feu aux poudres, sa vie est en danger, parce que se dresser contre l'Église, c'est se dresser contre une puissance terrestre extrêmement violente et impitoyable. Jean Hus, le grand prophète hongrois, a été brûlé alors que on l'a brûlé pour le punir, et beaucoup d'autres aussi en Angleterre, Wycliffe, etc. Donc Luther sait qu'il risque sa peau, et donc par prudence ou par couardise, il va se réfugier derrière les princes allemands, parce que les princes allemands, ben, quand ils voient qu'on pille les couvents, qu'on a, ils se disent c'est formidable. C'est un moyen pour nous d'accaparer tous les biens de l'Église. Et l'Église allemande, à ce moment-là, les chiffres varient d'un chercheur à l'autre, possède sur le plan foncier soit la moitié, soit les deux tiers des terres allemandes. Donc, les princes vont dire, c'est formidable, c'est à nous. Sauf qu'il y a une chose qui ne va pas du tout, c'est que ce qui est pillé par des paysans. Alors que les princes, Frédéric II le dit ouvertement, ils peuvent piller tout ce qu'ils veulent, mais qui nous ramènent le butin, c'est à nous, c'est à nous. Et donc les choses vont évidemment se tendre de façon très dramatique entre deux conceptions du monde. Alors, Luther est un théologien, ça c'est absolument certain. Il est de ce côté-là de la réflexion. Mais en face de lui, il a Münzer, et Münzer est d'une toute autre nature. Münzer, c'est un prophète. C'est pas du tout un chef de guerre, c'est pas un chef de bande, c'est pas un général, c'est rien. C'est un prophète. Lui, ce qu'il lit dans les textes, il le lit comme l'annonce de l'intervention de Dieu dans l'histoire, mais comme bien des générations de chrétiens avant lui. Donc ils pensent que ça y est, que le moment est venu et qu'ils vont y arriver.
Alors, il y a un autre sujet aussi qu'on retrouve au fil des pages, c'est la peinture. La peinture, l'art, alors vous avez parlé de Raphaël, de Cranach, et puis il y a ce Lucas qui peint et qui analyse aussi l'effet de la peinture, objet qui va être au centre des débats aussi chez les protestants, avec ce risque d'idolâtrie. Il y a un beau texte, je trouve, sur les nus. Je vous aurais bien fait lire une partie.
Non, parce qu'en arrivant à Wittenberg, Lucas va faire la connaissance d'un autre Lucas, de Lucas Cranach, qui est l'ami intime de Luther. Et Cranach, voyant arriver un élève de Raphaël, pense que c'est pour lui une chance inespérée, parce que Raphaël est déjà une célébrité mondiale. Or, Cranach... Attendez, je bois un coup. Or, Cranach n'est pas du tout organisé comme est organisé Raphaël. Enfin, il découvre comment est organisé Raphaël. Et c'est quand même assez stupéfiant, parce que l'atelier de Raphaël employait 50 personnes. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de la critique picturale aujourd'hui. Comment distinguer ce qui est de Raphaël dans les toiles qui lui sont attribuées et ce qui est de son atelier ? Parce que, mais on le sait, là aussi les textes sont très nombreux, hein. Il y a ceux qui faisaient les paysages, les décors, ceux qui faisaient des drapés, ceux qui faisaient des instruments, ceux qui faisaient des accessoires, et le maître Raphaël se réservant de faire les visages et les mains. Et donc Cranach, apprenant ça, va apprendre de Lucas comment organiser un atelier pour que ce soit extrêmement efficace et rentable, parce que il faut que ça tourne. Et notamment, Cranach va découvrir que, alors il y a les commandes de l'Église, etc., qui sont très prestigieuses, qui sont importantes, et puis il y a toutes les commandes des riches, de la grande bourgeoisie, etc. Et là, il sait que un des produits, si j'ose dire, les plus efficaces, ce sont les nus. Et donc, comment faire des nus ? Et surtout, il explique quelque chose. C'est ça que vous voulez que je lise. Il explique à Cranach une différence avec ce qu'est la peinture des nus. D'ailleurs, juste un passage. On peut s'étonner, par exemple, dans toute la peinture italienne du XVIe siècle, de voir le nombre absolument considérable de nus, souvent à caractère mythologique, qui ont été produits par tous les peintres. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était une injonction de l'Église. L'Église avait comme idée que dans la chambre des époux, il devait y avoir de beaux nus, pour qu'au moment du coït, la femme voie de beaux corps pour accoucher de beaux enfants. puissance de l'image quand même, et ça extraordinaire. Et je pense que cette idée-là a glissé aussi en Allemagne. Et parce que quand on voit la production phénoménale de nus par Cranach, enfin par son, là aussi son atelier bien organisé, il y avait de la demande, réellement de la demande. Et c'était pas simplement pour observer des femmes nues. Enfin, c'était ça, mais ça avait aussi une fonction, je dirais, à la fois religieuse et sensuelle, quoi, les deux. Alors, nous passâmes une partie de la nuit à parler de l'œuvre de Cranach. C'est Luca Ponti qui parle. Des portraits qu'il avait faits et ferait encore de Luther, de Mélenchon, de Frédéric III, d'Albert de Brandebourg, de ses toiles religieuses, de ses crucifixions et de ses nus, où il atteignait à mes yeux le sommet de son art. « Je ne te suis pas, » dit Cranach. « Pourquoi mes nus seraient-ils supérieurs aux autres toiles ?»« Dans vos nus, vous échappez au sujet, assénai-je. Quand vous peignez Jésus en croix, la dérision du Christ ou une adoration des mages, vous êtes enfermé dans les demandes du client. Vous répondez à la commande, vous l'exécutez, on vous paye. Mais où êtes-vous dans la toile ? Ah, bien sûr, on dit, c'est un Cranach, tant votre art et votre manière sont reconnaissables entre tous et valent bien le prix qu'on vous donne. Mais où est l'artiste Cranach qui met sa vie en jeu ? Dégagé du commerce, du souci de plaire. Quand vous peignez les trois grâces, Vénus, Diane, Lucrèce, vous n'êtes que dans la peinture, vous êtes libre de vous y perdre. Qu'importe alors le titre que vous donnez à l'œuvre, nous ne voyons qu'un corps qui nous touche par sa sensualité, par sa grâce, sa beauté. Avec ces femmes, il n'y a plus d'histoire, plus de légende, plus de mythe. Vous embrassez l'humanité vivante, vous faites corps avec elle. Devant nos yeux vibre une chair sensible, délicate, qui n'est que lumière, qui échappe aux contingences du temps. Vos nus sont éternels. Dans les autres, quel que soit votre talent, et vous savez à quelle hauteur je le considère, vous gardez une distance qui à la fois marque votre respect pour le sujet et vous protège d'une exposition trop personnelle. C'est à cela que vous devez renoncer. Cranach réfléchit. Je devrais donc m'affranchir du sujet sans hésiter. Les sujets de vos œuvres de commande ont un terrible défaut. Ils vieillissent, se datent, se corrompent. Dans un siècle, on les regardera comme des vieilles toiles, alors que cela n'arrivera jamais à vos nus. Enfin, juste pour dire sur la peinture a une importance dans la guerre que les paysans vont mener, parce qu'ils veulent marcher sous une bannière. Or, aucun des peintres ne veut peindre cette bannière, parce que là aussi, leur vie serait en danger. Alors, là aussi, les choses sont très tranchées, parce que d'un côté, on voit Dürer, qui prendra le parti des paysans et qui dessinera d'ailleurs un projet d'un un immense monument à la gloire des paysans qui n'existera pas, qui ne sera qu'un projet, mais qui prendra parti pour eux. Ou, par exemple, Matthias Grunewald, vous savez, celui qui a fait ce triptyque magnifique qui est à Colmar, lui prendra si ouvertement parti par les paysans qu'il sera chassé et qu'il y laissera et son art et sa vie. Cranach, de son côté, par amitié pour Luther, restera évidemment du côté des princes. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit que les conflits vont... parce que c'est un roman d'aventure, donc il y a des rebondissements. Il se passe les affrontements entre les hommes vont de conflit en conflit, et s'aggravent chaque jour un peu plus. Et on va découvrir une chose qui est quand même assez étonnante. Enfin, d'abord, je veux parler d'une autre chose qui était pour moi au départ, je vous parle du Moyen-Âge, qui m'a fait commencer à travailler sur ces questions-là. Il y a très très longtemps, j'ai lu le livre de Engels qui s'appelle « Les guerres paysannes en Allemagne au XVIe siècle ». J'ai trouvé ça magnifique. Et j'en ai parlé à Geneviève Serrault, qui est une écrivaine aujourd'hui un peu disparue, mais qui était la secrétaire de rédaction des Lettres Nouvelles que dirigeait Maurice Nadeau, et qui était, Geneviève était aussi la première traductrice de Brecht. Bref, en lui parlant, elle me dit, mais il faut que tu lises l'essai de Ernst Bloch que les Lettres Nouvelles venaient de publier, qui s'appelle Thomas Munzer, le théologien de la Révolution. Parce que aussi bien Engels que Ernst Bloch considéraient finalement Munzer comme une sorte de proto-communiste. C'était, à mes yeux, pousser le bouchon un peu loin, mais on comprend qu'on puisse proposer cette analyse.
C'était une de mes questions, d'ailleurs, si Munzer n'était pas marxiste avant l'heure.
Non, 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 il ne l'était pas. Non. Munzer est tout entier dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire l'idéal de vie en commun, de partage des biens, etc. Mais en mourant sous la torture, il a prononcé cette phrase « Omnia sunt communia », toutes choses sont communes, qu'on considère comme le premier point de départ de ce que sera l'idée communiste réellement, politiquement. Il y aura d'autres prêtres qui seront en réalité, enfin, qui auront une pensée plus directement sociale et économique, comme Pfeiffer, etc. Bon, mais ça, c'est autre chose. Non, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'imprimerie et de la langue. Je reviens sur la langue, parce que Luther va faire quelque chose d'incroyable, et qui là aussi va changer tout. Il va traduire la Bible hébraïque et le Nouveau Testament en allemand. Et d'ailleurs, sa traduction en allemand est faite non pas dans un allemand savant, mais il défendait l'idée que c'était auprès du peuple, auprès des commerçants, auprès des marchands, etc., qu'il fallait entendre l'allemand. Et donc, sa traduction sera quelque chose qui va fonder d'une certaine manière la langue allemande, comme on peut dire que la Divine Comédie de Dante fonde l'italien. Enfin, ça fait partie des choses incontournables dans une langue. Qu'est-ce que ça change ? Ben, ça change tout. Ça fait que à l'Église, les gens qui sont là, d'un seul coup, comprennent ce dont on leur parle. Avant, on prêchait en latin. Et vous imaginez des serfs en Allemagne au XIVe siècle, le latin devait leur passer assez largement au-dessus de la tête. Donc soudain, ils entendent tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, apparemment, parce que d'abord Luther ne le fait pas, mais d'abord Munzer, Karlstadt, Pfeiffer, enfin plusieurs prêtres se mettent à prêcher en allemand, et puis donc Luther se sent obligé de le faire aussi. Et on voit Luther dans une église prêcher sur tel passage de la Bible, en faire l'exégèse, l'analyse, la critique. Mais tout le monde comprend, bien entendu, qu'il est en train de parler de la situation allemande concrète au moment où il parle. C'est légèrement décalé, mais on comprend exactement ça. Dans une autre église, on voit Munzer qui prêche sur les psaumes ou sur Daniel. Et là aussi, on comprend qu'il parle de la situation réelle en Allemagne au moment où il prêche. Apparemment, ce sont deux exégètes qui se disputent sur une interprétation du texte. Mais en réalité, et très profondément, ce sont deux hommes politiques qui s'opposent sur deux visions du monde absolument antagonistes. Et donc, c'est là que le discours religieux devient le véhicule du discours politique. Et ça, c'est un changement radical. Et si vous me permettez une anecdote, peut-être une des dernières conversations que j'ai eues avec Michel Foucault était sur ce terrain-là. Parce que je trouvais que Michel Foucault s'enthousiasmait de façon un peu trop irréfléchie pour la révolution en Iran. Alors bien sûr, j'étais absolument d'accord et absolument à 100% comme lui d'avis qu'il fallait se débarrasser du Shah, de la Savak, etc. Mais qu'est-ce qu'on voyait arriver ? On voyait arriver des religieux. Et je trouvais que ça me faisait tout à fait penser à la situation en Allemagne à ce moment-là. Et je disais, le problème, c'est la langue, parce que le Shah d'Iran avait voulu à toute force occidentaliser l'Iran, l'américaniser même, et c'était absolument étranger à la culture des Iraniens. Arrive Khomeini. Qu'est-ce qu'il fait Khomeini ? eh bien, il fait des exégèses du Coran ou des sourates, la culture populaire de ceux qui vivent en Iran. Et immédiatement, tout le monde, là aussi, comprend ce qu'il dit. Ben, c'est la même situation. C'est exactement la même situation. Alors si on ajoute à ça que chacun de leur côté vont publier, et que Munzer, qui sera chassé de bien des endroits, emmène toujours avec lui sa presse à imprimerie. La chose qu'il fait, c'est de l'imprimerie, parce que c'est la façon de diffuser ses idées, etc. Mais encore une fois, j'insiste, il est un prophète. Et l'autre jour, dans une discussion avec des amis, quelqu'un m'a dit « Oui, ben, bien sûr, c'est pas Fidel Castro, c'est Che Guevara ». Ben, c'est vrai, c'est très juste, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un comme ça.
D'où vient, Gérard Mordilla, cette passion pour les religions? Est-ce que ça vous vient d'abord par les mots, la langue, le texte qu'il faut analyser ou la poésie qui s'en dégage?
Je n'ai aucune passion pour les religions. J'ai une grande passion pour l'écriture. Je veux dire, oui. Les travaux que nous avons faits avec Jérôme Prieur sur la littérature chrétienne ou sur la littérature musulmane, c'est sur la littérature. Ce qui est important, c'est la littérature. Et cette histoire-là, bien, de lire que comment un discours religieux devient un discours politique, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est écrit. Que c'est écrit, c'est ça. Mais je ne fais aucune différence entre les travaux que j'ai faits là ou avec la préface que j'ai écrite pour une réédition des chapitres sur le travail et le salaire dans le Capital de Marx. Ce qui est important, c'est l'écriture, c'est s'interroger sans cesse, parce que on peut toujours être pris la main dans le sac d'être un lecteur distrait. Et c'est vrai qu'avec Jérôme, on a passé notre temps à expliquer que nos travaux étaient en réalité, enfin, comme les travaux de tous les chercheurs sur ce terrain-là, sont des travaux d'apprentissage de la lecture. Et c'est ça qui est important. Il faut lire avec attention. Or, ça n'est pas donné. C'est quelque chose qui demande une pratique. Et c'est vrai que dans ces rencontres que nous avons faites avec les exégètes du Nouveau Testament ou de l'Islam, etc., on a eu, je pense, la chance de rencontrer quelques-uns des très grands lecteurs de ce temps, c'est-à-dire capables de mesurer l'enjeu d'un livre sur un verbe ou sur un mot. Et moi, c'est ça qui m'a passionné et qui me... Mais en réalité, pour moi, tout est parti, donc je le disais il y a très très longtemps, au Moyen-Âge, de cette lecture de Engels. C'est parce que j'ai lu ça au départ. Et parce que quand on s'est mis à travailler avec Jérôme Prieur sur la littérature chrétienne, heureusement que j'avais lu ça, parce que je n'avais aucune culture chrétienne, sauf que Geneviève Serrault, en me faisant lire Ernst Bloch, m'avait fait aussi lire le Nouveau Testament, que je n'avais jamais lu, et avait guidé aussi mes lectures bibliques. Donc, encore une fois, le texte, rien que le texte, tout le texte. Alors, ce qui est formidable, eh bien, c'est, la grâce et le plaisir du roman. Parce que, ce que j'ai écrit, c'est de même nature. Alors, j'ai pas l'onction universitaire comme Umberto Eco, mais c'est Le Rôt de la Rose. Et j'ai pas l'onction académique comme Marguerite Yourcenar, mais c'est comme L'Œuvre au Noir, qui se passe derrière dans la même période. Et avec, pareil, le même souci chez Marguerite Yourcenar, chez Umberto Eco aussi, mais chez Marguerite Yourcenar, il y avait une scène que j'avais trouvée formidable, qui est, quand on écrit comme ça sur des bases historiques très fortes, il faut enfouir les sources. Il ne faut jamais que ça pèse sur les lectrices ou les lecteurs. Et chez Marguerite Yourcenar, il y a une très belle scène où les deux cousines vont se coucher, et soudain, l'une des deux est en chemise. Et puis, on continue la scène. Simplement, quand on connaît l'histoire, on comprend que celle qui est nue sait immédiatement que sa cousine a la peste. Parce qu'à cette époque-là, on couchait nu, puisqu'on devait être sans tache vis-à-vis de Dieu. Si soudain elle se couvre, eh bien, c'est qu'elle a la peste. Jamais Marguerite Yourcenar le dit tel que je viens de le dire. tout est enfoui dans ce qu'elle écrit, et la scène est magnifique comme ça. Et moi, je crois que c'est ça qui est important. C'est ça l'art du roman, c'est l'art de... Et il y a une chose que...
De transmettre l'histoire sans que ça ne paraisse, c'est ça.
Ben, j'aime beaucoup, j'ai lu de Eri De Luca, une chose que je reprends à mon compte, Eri De Luca, à propos d'un de ses livres, disait, je crois que la fiction est plus généreuse que l'histoire, et très souvent plus exacte. Ben, je pense que je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça.
Alors, l'histoire religieuse occupe une grande place dans votre œuvre et dans cet ouvrage. L'histoire aussi du monde ouvrier et de la classe ouvrière qui est souvent mise en avant. Avez-vous toujours l'impression aujourd'hui d'appartenir à cette famille de classe ouvrière ?
Sans aucune hésitation, oui. J'ai un rapport au monde, enfin moi je pense être toujours... J'aime beaucoup la formule de Pierre Perrault, le documentariste québécois à qui on posait la même question. Il avait une réponse très bien. Il disait, lui, je suis un intellectuel de la première génération. Parce que sa famille avait toujours travaillé dans le bois et tout. Lui, il est devenu cinéaste. Eh bien, moi, toute ma famille a travaillé dans la mécanique et moi, je suis devenu cinéaste et romancier. Mais... intellectuellement, socialement, politiquement, j'appartiens à cette classe. Et là, je parle des paysans, enfin des serfs, bien sûr, mais c'est sûr que, comme je l'ai lu dans quelques commentaires, je prends parti pour eux. Bah oui, naturellement, je ne me voyais pas à la place des aristocrates allemands ou des princes allemands. Et puis, je veux peut-être juste insister aussi sur une chose, c'est qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre. Tout à l'heure, j'ai lu l'histoire de Doty, cette jeune nonne. Mais c'est vrai que la part des femmes dans cette histoire est une part assez difficile à discerner. Bah, tout simplement parce que l'histoire a été écrite par des hommes, et parce que la place des femmes était une place très secondaire, et qu'on a très peu de sources. Alors, un ami allemand m'a envoyé, et traduit parce que je ne pratique pas l'allemand, un article qui est paru assez récemment, où deux Allemands ont commencé à chercher de ce côté-là, à chercher du côté de Ottilie de Gersen pour voir comment, ce qu'il y avait. Alors, ils ont trouvé, il y a très très peu de sources, mais en tout cas, ils sont arrivés à une sorte de conclusion que Ottilie de Gersen, qui était une nonne, qui était une bénédictine, vraisemblablement savait lire et écrire, et que on ne peut pas penser que Münzer ait mis en place un nouveau rituel du mariage protestant qui existe encore aujourd'hui, hein, sans qu'elle y ait été pour quelque chose. Donc ces femmes qui ont vécu cette période si violente, si dramatique, nécessairement n'étaient pas simplement là pour faire de la soupe. Donc il y a ça. C'est la même chose du côté de Luther, où sa femme est exactement le même profil, je dirais, sociologique que celle de Münzer. Et puis, dans les propos de table, on voit une ou deux fois Katharina von Borath, non pas contester Luther, parce que c'était impossible de contester Luther, il ne l'acceptait pas, mais en tout cas, nuancer ses propos. Donc on comprend qu'elle n'était pas là simplement comme une souche vouée à l'admirer. Donc j'ai essayé de faire vivre le plus que je pouvais ces personnages féminins qui étaient des personnages, à mes yeux, essentiels à l'histoire.
Oui, et je l'ai bien perçu, puisque les rôles principaux, voilà, ce sont des hommes, mais les femmes, certes secondaires, ont de beaux rôles et de beaux portraits, sont bien présentes dans votre livre. Vous pensez que le manque de femmes aujourd'hui dans la religion catholique, la dépréciation qui pèse un peu, sur elles, ça a pas favorisé ou ça aurait favorisé la crise des vocations aujourd'hui?
Écoutez, sincèrement, je n'ai aucune opinion là-dessus. Simplement, j'ai pu constater que lorsque nous avons tourné Corpus Christi avec Jérôme Prieur, il n'y avait que des hommes, c'est-à-dire que des hommes qui faisaient le travail exégétique et historique. Il n'y avait pas de femmes. Après, quand on a tourné, l'origine du christianisme, avait émergé Paula Fredriksen, une historienne américaine, et puis une française, mais ça reste encore extrêmement limité. Il y a beaucoup de théologiennes, mais de femmes qui font réellement le travail critique sur les textes, il y en a très peu. Et dans l'islam, il y en a très peu aussi. Et alors là, dans l'islam, elles sont même tout à fait empêchées, même avec tous les titres universitaires et les garanties que l'on peut avoir.
Pour revenir à la classe ouvrière, comment vous définiriez, vous, aujourd'hui, la classe ouvrière ? Quel visage lui donner ?
Ben, je pense que, évidemment, c'est très difficile de globaliser dans la mesure où ce qu'on entendait par classe ouvrière, c'était à l'époque où il y avait de très grandes unités de groupes de travailleurs qui pouvaient se reconnaître entre eux, etc. Après le traumatisme de 68, les patrons ont compris qu'il fallait faire éclater tout ça et qu'il fallait qu'il n'y ait plus de grands rassemblements comme dans l'automobile, etc. Et donc il fallait tout éclater, faire de plus petites unités, mettre les unités en concurrence, puis les gens en concurrence, etc. De ce point de vue-là, ils ont... Pour moi, la classe ouvrière, c'est la classe salariée. Voilà. Et donc... c'est ça qui réunit les uns et les autres. C'est un rapport, tout simplement, entre le travail et le salaire. Mmh. C'est ça, la classe ouvrière. Alors, ça comprend les ouvriers, les employés, les vendeurs, les vendeuses, enfin, tous ceux qui sont dans ce rapport au monde, qui sont tout simplement des salariés. Alors, on peut beaucoup discuter ensuite de ces questions, mais... c'est ça qui définit. Je ne vois pas d'autres... Enfin, en tout cas, ce qui est peut-être très différent aujourd'hui, c'est que je pense que dans les années 50 ou 60, en interrogeant les gens, une dizaine de personnes qui travaillent tout simplement... une majorité aurait spontanément dit « j'appartiens à la classe ouvrière ». Aujourd'hui, on a tellement fait l'éloge de l'individualisme et du succès individuel que je ne sais pas si les gens se reconnaissent sous ce vocable. C'est ça qui est différent. Simplement, ils y appartiennent de fait.
On ne le retrouve plus trop en étendard. Beaucoup souhaitent être au-dessus de la mêlée. Donc on ne se revendique pas de la classe ouvrière.
Ben, vous savez, c'est... la terrible formule de Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que l'individu et sa famille. Et cette chose-là, eh bien, qui a été dite, répétée, qui est répétée tous les jours par tous les médias, ça finit par apparaître comme une sorte de vérité révélée pour beaucoup. Simplement, la réalité est tout autre. Elle est tout autre. Et on découvre... Et c'est toujours stupéfiant de voir que dans des grands conflits sociaux, il y en a qui soudain prennent conscience de l'importance de faire un travail en commun et d'une action commune. Mais vous savez, la formule de Munzer, Unia son Comunia, c'est une chose qu'aujourd'hui on voit dans les manifestations. Donc.
Je vous aurais bien fait lire un dernier passage.
Allez, d'accord.
Un dernier sur le héros du livre, Luca Ponti, qui s'émancipe au fil des pages, au fil du temps, qui se pose aussi des questions sur sa foi. Et là, page 229, voilà, il réfléchit un peu. Je ne sais pas si ce passage vous convient.
Très bien. Un peu après, vous avez... Non, mais Luca, c'est forcément celui auquel... chacun d'entre nous peut s'identifier, et donc qui exprime aussi ses doutes, ses inquiétudes, ses enthousiasmes, parce que pris entre deux hommes aussi déterminés qu'étaient et Luther et Munzer, eh bien, il doit exister. Et pour exister, il doit réfléchir. Alors... Il faut que je prenne un peu plus haut. C'est Munzer qui parle et qui dit à Luca Ponti, ils sont en train de discuter, il lui dit Tu parles du christianisme comme s'il était loin de toi, grogna Munzer, que cette conversation contrariait. Ma réponse tomba comme une pierre dans l'eau. Il l'est. Tu ne te sens plus chrétien ? Je pense que le savoir et la sagesse devraient guider tous nos gestes et que l'art est la forme supérieure de l'expression humaine. Sa voix se fit pressante. Que fais-tu de la foi ?
Rien ? Rien ?
Non, dit Lucas, la foi n'est rien pour moi. La raison est tout. J'avais parlé trop vite. Munzer pâlit, le souffle court. Mais comment peux-tu proférer de telles horreurs ? Je pris le temps de m'expliquer. La nuit où j'ai cru que Doty allait mourir, j'ai senti la foi s'éloigner de moi jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elle n'est jamais revenue. J'y avais beaucoup réfléchi. Vous qui croyez que Dieu a créé toute chose sur la terre, dis-je calmement, demandez-vous pourquoi il a créé un être comme moi, un être qui ne croit pas en lui. Comment est-ce possible ? Demandez-vous pourquoi, alors que je n'ai plus la foi, je me conduis plus honnêtement que ceux qui, comme le frère Martin, la proclament en se griffant les joues et bafouent chaque jour tous les plus beaux principes des évangiles. Je me souviens que la première fois que je vous ai vu devant votre cure à la halle, vous expliquiez aux paysans qui vous entouraient que les seigneurs, tous chrétiens, pieux, baptisés, font des lois qu'ils s'empressent d'ignorer, mais que les pauvres doivent respecter sous peine de mort. Ils doivent leur obéir comme à Dieu. Tu ne voleras point. Mais ce commandement ne vaut pas pour eux. Les seigneurs s'approprient sans vergogne les poissons dans l'eau, les oiseaux dans l'air, la végétation sur la terre. Ils exigent que tout leur appartienne, que tout leur soit dû. Ils peuvent tout prendre et ne laisser aux miséreux que privation et humiliation. Pourquoi ces seigneurs chrétiens, laïcs ou religieux, s'affranchissent si aisément des commandements divins ? Parce que Dieu soutient leur cause, comme le prétend Luther, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont armés, parce que le peuple n'ose pas se dresser contre eux, parce que le paradis n'existe que pour les riches, les forts, les puissants et uniquement sur la terre, parce qu'ils savent que tout en profiter, il faut condamner les serfs, les misérables, les mendiants à vivre en enfer. Ainsi, au nom du Christ, tous les hommes peuvent être opprimés. Le paysan sans terre, l'artisan privé d'outils, le malheureux qui ramasse du bois mort pour se chauffer et qui est pendu comme votre père l'a été.
C'est un peu vous qui parlez, là, Gérard Mordilla, dans ce passage.
C'est un peu moi, c'est un peu Diderot, c'est un peu beaucoup qui ont... Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Je n'ai jamais été transpercé par la moindre idée de foi en quoi que ce soit. Jamais.
Dans la connaissance, peut-être.
Pardon ?
Dans le savoir, peut-être. Dans
ah
la
non,
connaissance.
Ça, oui. Le savoir, bien sûr. La raison, bien sûr. Mais je n'ai... Mais même enfant, même adolescent, je n'ai jamais eu de crise spirituelle. Non, je n'ai jamais cru et je ne crois toujours pas. Je crois que je ne croirai jamais.
Malgré tous ces essais, ces documentaires, ces livres et ces films. Peut-être on va proposer au public de poser des questions s'il le souhaite ou de faire des remarques à Gérard Mordilla qui est là. Alors profitez-en avant qu'on passe au temps des dédicaces. Je vous laisse préparer votre question avant de vous tendre le micro. Ah, bonsoir. Oui.
Parce que vous avez aussi écrit une bande dessinée sur le même sujet.
Oui.
Trois armées.
Oui.
Est-ce qu'elle est dans la...
J'espère,
je présume. Peut-être sur le petit présentoir.
Non,
elle n'y est pas ? Ah, on va demander alors quand ils vont réapparaître.
Parce que nous étions partis avec Éric Liberge pour faire quelque chose d'un tout petit peu différent, mais à cause de l'augmentation phénoménale du prix du papier, Futuropolis, notre éditeur, avait pris les devants et de commander le papier pour faire ce roman graphique simplement. Vu la commande du papier, nous ne pouvions faire que 120 pages. Et donc j'étais extrêmement frustré dans la mesure où je pensais que nous en ferions le double. Donc on a publié ce roman qui est un très bon condensé de l'histoire, magnifique condensé de l'histoire, mais j'ai écrit le roman tel qu'il est pour en comprendre l'ampleur, les profondeurs et les subtilités. C'est deux choses différentes. On peut lire le premier peut-être pour le plaisir graphique et puis ensuite s'enfoncer dans le roman.
Et là, vous avez sûrement un plan média, vous allez être invité par des radios, des télés, personne ne vous a...
Non, moi je ne fais pas les salons, je ne fais que les rencontres en librairie. Vous savez, il y a une grande difficulté avec les médias, c'est-à-dire que la place de la littérature est de plus en plus réduite à rien. Ah, ben voilà, Kiki, voilà. Okay. Donc, le problème, je vais vous dire, l'attaché de presse qui s'occupe du livre, par exemple, et je ne suis pas le seul à avoir entendu ça, on lui fait comme réponse, ah oui, le livre de Mordia est très bien, mais ça fait 400 pages, hein, on ne peut pas lire ça. C'est grave. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des notules, des résumés, des prières d'insérés. Mais il n'y a plus, et depuis longtemps, de travail critique au sens plein, d'essayer de déterminer la chose réelle. Quand moi j'ai dirigé les pages livres de Libération, ma grande fierté, c'est que nous avons publié réellement des travaux critiques sur les livres qui se publiaient. Oui. Je dirais pas une notule. Et par exemple, je pense, à ce moment-là, le livre de Calvino, « Si par une nuit d'hiver », eh bien Philippe Boyer, qui faisait le papier, y a consacré 3 semaines, on a consacré 3 pages à ça, et c'est-à-dire 18 feuillets, et Calvino lui a envoyé une lettre de 2 pages pour le remercier. Un vrai travail critique, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'aligner des superlatifs ou des comparatifs. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de superlatif, il n'y a pas de comparatif, c'est pas le plus grand roman, ça n'a aucun sens. Mais comment c'est fait? Pourquoi c'est fait?
Et pourquoi on doit le lire?
Et pourquoi on doit lire?
Qui va se plaire à lire tel ouvrage? Parce que souvent, les livres ont un...
Mais oui, bah parce que là aussi, ça vient de... Enfin, d'un a priori qui suppose les lectrices et les lecteurs ignorent. Et donc, le point de vue... des commentateurs, je n'ose pas dire des critiques, et toujours qu'est-ce que ça signifie, comme si nous n'étions pas capables de comprendre ce que ça signifie. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Nous avons un jour, en déjeunant, nous étions avec Annie Arnaud et Dan Franck. Et quand des écrivains sont ensemble, évidemment, forcément, on dit du mal de la critique. Donc, c'est naturel. Et la conversation a glissé sur la grammaire. Et c'était extrêmement intéressant. Parce que Annie Ernaux écrit ses livres au passé composé. C'est chez elle un choix politique. Elle refuse d'utiliser l'imparfait et le passé simple, qui sont pour elle la langue de la bourgeoisie. Donc... Ce qui explique aussi pourquoi Annie fait des livres qui font 120, 140 pages. Parce que c'est déjà très dur de mener ça au passé composé. Donc elle fait ça. Dan Franck, lui, défend l'idée, ou défendait de façon alors très puissante à ce moment-là, une sorte de subversion des règles les plus absurdes de la grammaire française pour faire voir à quel point il les maîtrisait et qu'il pouvait, au fond, les retourner contre l'usage qui en était fait, notamment par tout ce que j'appellerais le bloc bourgeois. Le meilleur grammairien français de tous les écrivains, c'est Dan Franck. Si vous avez un problème d'accord des participes, c'est pas la peine de prendre le grévis. Vous appelez Dan Franck, il vous dira la réponse plus rapidement. Et moi, je défendais à ce moment-là j'avais publié un livre qui s'appelle « Les cinq parties du monde », où je défendais un point de vue dramatique d'usage de la grammaire. Et aucun des commentateurs n'avait remarqué que certaines phrases, certains dialogues qui commençaient au présent se terminaient dans les agrafes des imparfaits du subjonctif, simplement parce que ça exprimait de quelle façon le personnage était dans la dépression. Bon, tout ça pour dire que, bien sûr, ça nous a fait rire, on s'est dit jamais on lira une chose comme ça dans les journaux. Mais ça, c'est comme ça qu'on peut aimer lire les livres. C'est de comprendre ces choix qui sont des choix fondamentaux, qui sont absolument essentiels. Et ensuite, on peut toujours... le fait de qu'est-ce que ça signifie, bien, tout ce que nous sommes ici, nous sommes capables de le comprendre. Mais si quelque chose doit nous éclairer, et nous éclairer sur un livre, c'est bien, sa construction secrète. Je suppose ici qu'il y a par exemple les cours de Nabokov sur la littérature. Ben, c'est formidable. Vous disiez, je crois qu'il y a deux cours sur Ulysse de Joyce qui sont implicitement admiratifs, mais c'est tout. Mais en même temps extrêmement critiques sur pourquoi il utilise ça, comment il l'utilise, à quoi ça sert. Ça, c'est la grande question. Et voilà. Ben, quand on écrit Les Exaltés, ben, Les Exaltés, pourquoi j'écris un roman? J'aurais pu aussi écrire un essai sur ça, puisqu'au départ, il y a 50 ans, je voulais écrire un essai. Mais ce n'est pas important. Le roman, c'est à mes yeux aujourd'hui le seul véritable espace de liberté d'expression. Parce que du côté du cinéma ou de la télévision, on peut toujours vous opposer le mur de l'argent. C'est trop cher, etc. Ben, très bien. Du côté des médias, vous savez tous quels sont les principaux médias, sont dans la suggestion d'une dizaine ou d'une douzaine de milliardaires, ou si l'information n'est pas stricto sensu censurée, elle est en tout cas à ce point contrôlée qu'il n'y a aucune place pour dire autre chose que ce qui doit être dit. Et puis il reste le roman. Alors le roman, c'est formidable. D'abord, on a un grand modèle en France qui était Victor Hugo, parce que le roman... ça permet de charrier de l'histoire avec un grand H, et puis des histoires, puisque c'est aussi sa fonction. Et puis on continue, ça charrie du savoir. Regardez Victor Hugo, il veut faire une nomenclature des égouts parisiens dans Les Misérables. Et allons-y, vous avez droit à 20 pages sur les égouts parisiens. C'est une liberté d'écriture absolument extraordinaire. Dans 93, il y a un moment, quasiment tous les villages et les lieux-dits que le personnage traverse. Bon, très bien, ça existe. Voilà, ça, c'est cette liberté. Alors donc, il y a du savoir, du pouvoir, forcément, puisqu'on dit des choses, de l'avoir, du devoir, enfin, toutes les rimes que vous voulez. C'est comme un espèce de torrent qui charrie tout ça dans un seul et même mouvement, et qui, dans le fantasme de tout écrivain, moi je rêve, ça m'est arrivé, qu'il y a certaines personnes lisent un de mes livres, même si ça fait 400 pages, et ne lisent que ça jusqu'au bout, en 24, en 48 heures, voilà. Et ça, c'est ça. Et ben, c'est ça le roman, parce que dans ce torrent, les questions dont nous venons de discuter ici, elles s'incarnent. Elles prennent chair, et on peut les prendre à bras-le-corps. Et en les prenant à bras-le-corps, eh bien, soudain, le texte invente une lectrice ou un lecteur intelligent. Il y a un autre à qui s'affronter, avec qui dialoguer, avec qui vivre, avec qui aimer, etc. Et ben, c'est ça, la place absolument indispensable du roman, et plus que de l'essai.
Une autre question dans le public ou remarque? Non, sinon on va passer. Oui.
Monsieur, encore une question.
Vous avez parlé de Jan Hus, mais je crois qu'il était tchèque.
Oui, pardon, oui, je me suis trompé, oui.
Mais avant lui, il y avait Windley, il y avait.
Oui, Wycliffe, oui, aussi.
Et puis
oui.
Les Cathares, le Baudouin.
Oui, non, mais.
Ils ont été tous sévèrement réprimés.
Ah ben, et après Münzer, il y aura une terrible répression contre les anabaptistes, et puis, mais ça, enfin, cette histoire ne s'achève pas.
Ils ont quand même réussi, quand même.
Oui, mais ils ont réussi parce que...
Lucas a quand même réussi, quand même, puisqu'on a célébré les 400 ans de la réforme.
Ah non, mais c'est sûr que Luther a réussi à se séparer de l'Église romaine et à séparer toute une partie des chrétiens de l'Église romaine, c'est absolument certain. Ce qui est même très intéressant, c'est si on regarde dans les grandes figures du protestantisme, Luther a été un théologien, il a été un inspirateur, il a été un propagateur, mais il n'a jamais été dans une position de pouvoir. La génération suivante, avec Calvin, ça sera tout le contraire. Calvin sera dans une position de pouvoir, et quand on décrit les règles qu'il a fait appliquer à Genève lorsqu'il y était, l'Arabie saoudite à côté, ça paraît le club Méditerranée. Ben, nous sommes en train de discuter avec un éditeur allemand pour le traduire. Oui, mais parce que cette histoire qui est très mal connue en France, pour ne pas dire inconnue, est quand même très connue en Allemagne, était notamment très très connue en Allemagne de l'Est, puisque Münzer figurait même en effigie sur les billets de banque. Hein?
Parce que j'ai vu un reportage sur Arte,
oui.
En Turin,
mais
c'était...
Oui, oui. Oui, non, mais tout, il y a toutes les raisons pour s'y intéresser, parce que en écrivant ça aussi, on peut évidemment, on peut pas, et en lisant ça, on ne peut pas ne pas penser, plus près de nous, à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, parce que en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un parallélisme entre l'insurrection des paysans, à juste titre, mais en même temps, ces paysans qui ne s'organisent pas. Hein, il n'y a pas d'organisation. Il y a différentes bandes, et encore une fois, Münzer n'est pas le chef de toutes ces bandes. Il est le prophète, c'est autre chose. Il n'y a pas d'organisation. Et s'il n'y a pas d'organisation, quand ils vont être en face des armées des princes, qui, elles, sont parfaitement organisées, ils n'auront aucune chance. Bah, pareil pour les Gilets jaunes. Il y a un soulèvement populaire contre un certain nombre de choses. Les Gilets jaunes, dans un premier temps, refusent de s'organiser, etc. Et puis, bah, ils sont écrasés, effacés et oubliés très vite. C'est la même chose. Alors ça pose une question très profonde, qui est la question, justement, de la révolution elle-même. Soit on s'organise, comme Lénine le préconisait, et ça peut conduire au stalinisme et au pire du pire avec Pol Pot, hein, mais c'est organisé, ou on ne s'organise pas comme Makhno, qui était à la tête de la grande armée ukrainienne anarchiste, etc., et puis on est liquidé par l'histoire comme ont été liquidés les Espagnols anarchistes, etc., etc. Donc c'est très... Comment trouver le juste équilibre, la bonne voie, comment... Bon. Moi, je pense que nous ne sommes pas assez révoltés, que nous ne le serons jamais assez. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut savoir comment le mettre en œuvre.
Oui, mais il faut le dire aussi qu'en Allemagne, il y a des menons aussi protestants qui sont réfugiés à cause de Louis XIV.
Ah, bah oui.
À Berlin, parce qu'il était quand même tolérant, les princes de province, enfin, les grands électeurs, comme on dit.
Ah oui, Frédéric II était. Ce qui est... Enfin, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que à partir du moment où la tension est au maximum et que donc ils vont se battre, on s'attend à voir un combat entre les catholiques et les protestants ou futurs protestants, mais pas du tout. Les princes protestants et les princes catholiques s'allient pour assurer la continuité de la féodalité contre les serfs, les ouvriers, les petits commerçants, les mineurs. Et on arrive presque à une sorte de définition simpliste de la lutte des classes. Qu'est-ce qu'on voit ? Les riches contre les pauvres. Et devinez qui a gagné.
Avant de... Et pour conclure, Gérard Mordia, il faudra vous attendre de quel côté pour votre prochain, vos prochains travaux ? Ce sera du côté du cinéma, de la littérature
Les deux. Savez, j'aime beaucoup cette phrase de Mallarmé qui dit que pour lui, la musique et la poésie s'allument de feu réciproque. Bah, pour moi, la littérature et le cinéma s'allument de feu réciproque. Et là, je suis en train de préparer le troisième volet de mes travaux sur l'économie, après avoir fait travail, salaire, profit sur la production Le monde et sa propriété sur la propriété. Mmh. Avec Christophe Clerc, nous préparons maintenant l'argent, la dette, la finance. Et comme ça, j'aurais écrit de façon télévisuelle le Capital.
Oui, alors on attend pour Arte, probablement.
Oh, bah non, pour TF1, en prime time. Bah, bien sûr. Et puis, et je publierai en 2025 une chose qui me tient énormément à cœur. Je vais publier Les vivants et les morts 20 ans après. J'ai écrit l'histoire.
Ah, la suite. Comme une suite ?
Oui.
D'accord.
20 ans après. Rudy et Dallas, 20 ans après. Tout a changé. Tout paraît pareil, mais tout a changé. Donc voilà. Et ça sera... ce sont les...
C'est, on attend.
Voilà. C'est des travaux... je pense qu'on arrivera, avec un peu de chance, à tourner notre série d'ici la fin de l'année. Et mon roman paraîtra en janvier 2025.
Voilà. Le rendez-vous est pris.
Ouais.
Non, j'ai toujours le même éditeur, qui est Jean-Étienne Cohen-Séa, qui a publié tous mes livres, mais qui n'est plus éditeur. Et donc j'ai publié essentiellement des livres chez Calman Lévy, puisque Jean-Étienne était chez Calman Lévy. Puis je suis passé chez Albin Michel. Et puis... D'accord.
Bon, ah mince.
Et donc... Pierre Lemaître et moi, nous avons fait le même chemin. On est parti de chez Calman parce que, après Jean-Étienne Cohen-Séa, c'était une femme qui était devenue la patronne de Calman et qui était quelqu'un de très bien, sauf qu'elle n'était pas du tout une éditrice. Elle avait un rapport, elle était très bien pour gérer une maison d'édition, mais pas pour éditer des livres. Donc je suis allé chez Albin Michel, et puis de chez Albin, où avec les choses ne sont pas passées comme je voulais qu'elles se passent, mais exactement comme pour Pierre Lemaître, qui pourtant a eu le Goncourt chez Albin, il est retourné chez Calman, et moi aussi je suis retourné chez Calman. Voilà.
D'accord. Bon. Eh bien, passons à l'heure des dédicaces avant que les lumières ne s'éteignent.
D'accord.
Merci.
Allons-y.
Gérard Morvilla. Merci.